Bon, un mot personnel, ah, il y a un vrai son, pour vous dire que j'ai été effrayé par le monde qu'il y a le vendredi soir à Toulouse. J'arrive des Cévennes lausériennes, et c'est là qu'on mesure ce que signifie le désert, la solitude, la nuit. Demain, place du Capitole, je vais voir plus de monde en une après-midi que dans plusieurs vies. Dans ce hameau où nous sommes trois maisons habitées, je trouve que c'est déjà beaucoup. Et c'est là qu'on mesure, je vais faire ce que j'ai prévu de faire, hein, mais combien on peut vivre aux antipodes les uns des autres, la solitude qu'offre ce département de la Lozère. Alors je ne vous invite pas à venir y vivre, c'est très dur. C'est très très dur, il faut avoir une richesse intérieure, une vie intérieure d'une richesse phénoménale, parce que les rochers ne vous apportent pas grand-chose, ni les châtaigniers qui sont morts d'ailleurs. Alors je vais maintenant travailler, hein. Marlène, tu as eu peur. Hein. Liberté de croire, hein. Une longue histoire autour de la liberté. Pour vous dire tout de suite que ce que je n'avais pas compris quand j'étais plus jeune, je l'ai souvent dit, mais je le répète, je pensais que la liberté la plus haute et la plus difficile à accorder pour un État à ses citoyens, c'était la liberté de conscience. Et ça fait maintenant longtemps que j'ai découvert que la liberté de conscience est très facile à accorder, sauf si vous êtes un État totalitaire. Mais c'est facile à accorder parce que la liberté de conscience, elle est invisible, elle est inodore, elle est incolore, elle ne dérange personne. Vous êtes seul avec vous-même, il n'y a pas de dimension sociale à la liberté de conscience, alors que c'est à nos yeux la plus haute. La liberté la plus difficile à accorder pour un État, c'est la liberté, pardon de le dire, c'est banal, c'est la liberté de culte. Liberté de conscience, vous fermez la porte, vous êtes chez vous, c'est ce qu'ont fait d'ailleurs les Huguenots au XVIIIe siècle. J'ai oublié de dire, je suis historien, donc pas philosophe, pas éthicien si le mot existe, pas théologien, juste historien. Liberté de conscience, voilà, vous êtes seul avec vous, vous pouvez prier silencieusement, la liberté est absolue, ça ne coûte rien à l'État, ça n'a pas de traduction sociale, ça n'occupe pas la rue, ça ne construit pas. En revanche, la liberté de culte, ça intervient dans tous les sens. Ça peut intervenir sur le calendrier collectif, ça peut intervenir dans le paysage collectif. Est-ce qu'on a le droit de construire des lieux de culte? Est-ce qu'on a le droit de privatiser la rue? La rue, c'est public par excellence, pour faire une procession, une prière, la fête Dieu que faisaient, je ne sais pas s'ils la font encore, nos frères, comme on dit, et nos sœurs, pardon, nos sœurs et nos frères catholiques. Merci, j'ai bien écouté la conférence sur frères, sœurs et adeltité, ok. Et donc la liberté de culte, c'est matériel, c'est physique, ça se voit, ça s'entend. Est-ce que par exemple, il y a eu des débats autour de 1900, les libres penseurs, qui sont des gens d'une extrême logique, les libres penseurs disaient être choqués, et on peut les comprendre, par le son des cloches. Est-ce que c'est vivre dans un pays laïque que d'entendre le son des cloches d'une église catholique, par exemple? Et certains libres penseurs avaient demandé, y compris par des propositions de loi, qui ont eu en général une cinquantaine de votants hein, sur la majorité de l'Assemblée nationale, ils avaient demandé soit à ce que les cloches ne sonnent plus, soit à ce qu'ils aient l'usage des cloches. Ils avaient réfléchi à ce que pourrait être un son de cloche libre penseur. Et c'est très sérieux, ce sont de vrais débats parce que si vous voulez être vraiment dans un État, dans une société laïque et neutre, vous voyez des façades religieuses, vous entendez des sons religieux. Jadis ou naguère, vous ouvriez le calendrier de la poste et vous voyez les jours marqués par les saints, etc. Et donc cette liberté de culte, c'est ce qu'un État a le plus de mal à offrir. Et je vais prendre, donc vous l'avez compris, je suis historien, je vais prendre l'édit de Nantes. Hein. L'édit de Nantes offrait, des édits déjà avant lui offraient la liberté de conscience, mais la liberté de culte, elle n'a été offerte que de manière très très limitée, très partielle, parce que c'était vraiment le plus difficile à faire. Et en revanche, et ça c'est une fausse joie qu'ont connue les protestants français, je ne sais pas si vous le savez, lorsque Louis XIV, de sainte mémoire, le grand roi soleil, lorsqu'il a révoqué l'édit de Nantes en 1685, il a écrit le dernier article de la révocation, l'article 12, disait que si certains, en attendant d'être instruits, éclairés, voulaient prier chez eux, ils ne seraient pas dérangés. Et ça, ça a immédiatement trompé un certain nombre de protestants qui étaient fous de joie avec l'idée qu'ils pourraient rester protestants dès lors qu'ils renonceraient au culte public. Et Louis XIV, par la voix de ses intendants des provinces les plus protestantes, c'est-à-dire le Poitou et le Languedoc de Montpellier, Louis XIV a été contraint de rectifier le tir, de rétropédaler, comme on dit aujourd'hui, en expliquant que cet article 12 de l'édit de révocation ne donnait pas, contrairement à ce qu'on a vu penser, la liberté de conscience. La liberté de culte, évidemment, était interdite. Et si vous en arrivez à ce texte que je n'ose plus nommer comme tel, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pardon, chère sœur, mais la République disait la Déclaration des droits de l'homme, vous savez qu'il y a ce fameux article 10, « Nul ne peut être inquiété », etc. Les protestants sont très fiers. J'ai souvent dit que les protestants se croient modestes, mais sont très orgueilleux. Vous le savez, ils considèrent que cet article 10 a été écrit par l'un des leurs, l'ancien pasteur du désert de Nîmes, Rabaud Saint-Étienne. Rabaud Saint-Étienne avait écrit une partie de l'article 10, mais les prêtres élus à l'Assemblée sont venus corriger les choses pour qu'il n'y ait pas précisément une liberté de culte totale. Vous savez que cet article 10 dit « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Et ça, c'est extraordinaire. On a parlé de langue française tout à l'heure, on en reparle. Après, il y a une virgule. Même religieuse, virgule. Ce qui veut dire que même pour les révolutionnaires qui étaient prêts à donner toutes les libertés, la liberté religieuse, c'était plus pénible à donner. Il a fallu, c'est une incise, ça s'appelle une incise entre deux virgules, même religieuse, pourvu que, alors la suite, je devrais la savoir par cœur, pourvu que leur exercice ne trouble pas, vous savez, l'ordre établi par les lois. Ça veut dire que dans la phrase même où on donne la liberté de conscience et de culte, en vérité, on réduit la liberté de culte dès lors que cette liberté de culte gênerait, notamment dans des départements où on n'était pas habitué à avoir des protestants, cette liberté de culte serait interdite. C'est ce qu'a fait Napoléon III, qui a interdit un certain nombre de cultes protestants dans des départements qui n'avaient aucune tradition, comme la Haute-Vienne, par exemple. Aucune tradition historique avec les protestants, c'est dire que même la Révolution, dans cet article 10, pourtant si célèbre, a donné cette liberté, même religieuse, avec un peu de réticence, et surtout l'a limitée, précisément dans cette question de la liberté de culte. Nous en venons à la laïcité actuelle, à la loi de 1905, dont les articles 1 et 2 sont assez extraordinaires, vous les connaissez tous, hein. Les Français souvent ne connaissent que l'article 2, croyant que c'est l'article 1. L'article 2, c'est l'article des négations. La République ne reconnaît, après moi, non, pas si vite. La liberté ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Mais ça, c'est l'article des négations, si vous voulez. L'article positif, affirmatif, c'est l'article 1, comme il se doit. Et qui, là aussi, je croyais le savoir par cœur, mais je viens de l'oublier, je suis coupable. Qui dit, il y a des verbes qui sont synonymes. La liberté reconnaît, la République reconnaît la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. Vous voyez, en 1905, la République fait très attention à dire publiquement, par écrit, officiellement, qu'elle reconnaît la liberté de culte, sachant que la liberté de conscience, c'est insuffisant. Et mieux que ça, dans l'article 2, l'article des négations, il y a, vous savez, un point-virgule. Alors là, ce n'est pas la virgule, tout est derrière le point-virgule. Dans un texte, j'avais essayé de l'appeler l'article 2b, mais mes collègues juristes m'ont dit qu'on ne peut pas s'amuser à distinguer un 2a et un 2b si le législateur ne l'a pas fait. Et dans cet article 2, on dit que il sera possible, à certaines conditions, qu'il y ait des aumôneries avec un financement public, c'est-à-dire que l'article qui dit « pas d'argent pour les religions », après un point virgule, signale qu'il sera possible de financer sur fonds publics des aumôneries, et ça, c'est précisément la liberté de culte. C'est-à-dire que dire la liberté de culte pour tout le monde, c'est bien, mais s'il y a des gens qui, par fonction ou par état même temporaire, sont privés d'aller au culte, les internes des lycées, les prisonniers, les malades mentaux, comme il faut dire aujourd'hui, les militaires, eh bien, s'ils ne peuvent pas aller au culte, selon une formule célèbre de Paul Féval, Lagardère, oui, le culte viendra à eux. Voilà. Et même dans les années 1970, dans la revue la revue Les Études des Jésuites, il y a un commentateur qui a eu, moi je trouve c'est un jeu de mots que j'ai adoré, alors je vous en fais part, il a parlé d'aumônerie, écoutez bien, cathodique. C'est-à-dire que, puisqu'il n'y a pas seulement aujourd'hui dans la France vieillissante, rurale, où les prêtres sont trop peu nombreux et trop âgés quelquefois, il n'y a pas que les prisonniers, les malades à l'hôpital qui sont privés d'aller au culte, il y a aussi les gens isolés, âgés. Songez à ma Lozère. Vous croyez qu'on peut aller à la messe facilement en Lozère aujourd'hui, le dimanche matin, ou au culte? Eh bien, le culte allait venir à eux par le biais de la télévision, les fameuses émissions du dimanche matin. C'est l'idée de l'aumônerie. Vous savez que ces émissions religieuses du dimanche matin, les contenus religieux sont choisis par les religions elles-mêmes, mais le financement, dans certaines proportions, le financement est assuré par la puissance publique. C'est dire donc que la France s'est donné tous les moyens d'offrir non seulement cette liberté tellement magnifiée de conscience, mais une liberté plus technique, plus matérielle, plus obscure, plus triviale à offrir, la liberté de culte. Et c'est une liberté d'ailleurs dont profite aujourd'hui en France grâce à la laïcité, grâce au fait que, j'en termine, je ne vais pas vous faire un cours sur la laïcité pendant une demi-heure, grâce au fait que il n'y a plus en France de culte reconnu, parce que qui disait, et c'était déjà un très beau modèle de pluralisme, mais qui dit culte reconnu au XIXe siècle, dit qu'il y a des cultes qui ne sont pas reconnus, parce que trop minoritaires, ou trop récents, trop immigrés, etc. Il y avait donc une injustice, et depuis qu'il n'y a plus de culte reconnu, eh bien la liberté de culte est générale pour tous, et quelquefois on critique la laïcité française, en l'estimant un peu anti-religieuse. Un certain nombre aujourd'hui de gens redoutent qu'elle soit islamophobe. Je signale que la laïcité française est plus favorable à l'islam que le pluralisme allemand, qui par ailleurs est tout à fait remarquable. En Allemagne, et ça va donner des regrets aux hommes d'église qui sont devant moi, en Allemagne, les églises, et toute une série d'églises, les mormons, les anglicans, les témoins de Jéhovah, etc., sont reconnus corporations de droit public. C'est des avantages considérables. Ça veut dire qu'une partie, vous le savez, des impôts sur le revenu sont relevés par l'État et reversés aux églises. Ça s'appelle le Kirchensteuer, je crois, l'impôt sur le revenu. Mais l'islam majoritaire d'Allemagne, l'islam d'origine turque majoritaire, n'a toujours pas accéder à ce statut si intéressant de corporation de droit public. De certaine façon, la laïcité française, quelles que soient quelquefois les critiques qu'elle endure, elle assure, par ce choix des articles 1 et 2, une pleine liberté de culte, y compris aux cultes les plus récents, les plus liés à l'immigration, comme l'islam. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur cette liberté, et vous l'avez compris, la plus difficile, en apparence la plus, je dirais, la moins brillante sur le plan philosophique, mais finalement la plus essentielle, c'est bien la liberté de culte. Je vous remercie.